l'accessibilité.
Ça consiste à rendre tous les contenus accessibles à tous.
Pendant des décennies, l'industrie a sciemment ignoré tout ce qui n'était pas mâle, blanc, hétérosexuel, valide.
Tous les acteurs d'un projet numérique doivent faire des choses, en particulier les développeurs.
Manette directement dans un autre sens, avec un stick sur la paume pour jouer à une main, clavier découpé différemment, souris ergonomique.
C'est quasiment impossible.
Ça coûte de l'argent, vous comprenez? Et de toute façon, qui s'en fout des handicapés?
Parce que on a chacun des problèmes différents.
Mismatch.
Si on peut le faire, faisons-le.
La chronique qui vous parle accessibilité dans les jeux vidéo.
C'est compliqué, mais c'est pas impossible.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Mismatch, l'émission dédiée à l'accessibilité des jeux vidéo. Elle est destinée aux professionnels, aux néophytes du média, mais aussi aux joueurs et joueuses. Je suis Damien Farjou, game designer de formation, consultant d'accessibilité de jeux vidéo et président de l'association Dear Valid People. Chaque semaine, nous mettrons en lumière, ensemble, chaque pièce du puzzle formant ce jeune domaine qu'est l'accessibilité de jeux vidéo. Étant moi-même handicapé, ma formation mêlée à mon expérience de vie m'ont amené à me spécialiser sur le sujet. La semaine dernière, nous avons pu examiner une première idée reçue sur l'accessibilité encore très persistante. L'accessibilité dégrade le design. Cette affirmation est loin d'être vraie, l'inverse serait même plus proche de la vérité. Nouvelle semaine, nouvelle idée reçue à décortiquer dans Mismatch. L'accessibilité, ce n'est que pour les personnes handicapées. Plusieurs sous-entendus se trouvent dans cette affirmation. Les personnes handicapées ne constitueraient qu'une minorité. L'accessibilité ne viendrait combler qu'un besoin spécifique des personnes handicapées. Les croyants de cette idée ne sont pas en position de vivre des situations d'inaccessibilité. Leur biais les amène à croire que tout le monde est comme eux. Pour rappel, les personnes handicapées constituent un cinquième de la population mondiale, soit 12 millions de personnes en France. Ces chiffres sont amenés à être plus élevés si on prend en compte les personnes non déclarées administrativement, ne déclarant qu'un ressenti d'handicap. Concernant le jeu vidéo, Microsoft estime à 400 millions le nombre de joueurs handicapés dans le monde. Le mot « que » dans l'affirmation pouvait sous-entendre une minorité numéraire. Nous parlons de minorité sociale dans le cadre du handicap. C'est-à-dire que l'on se réfère au traitement social, médiatique compris, qui est réservé aux personnes handicapées. Il flirte avec l'inexistence, d'où le terme minorité. Un deuxième sous-entendu peut être compris dans l'idée reçue du jour. L'accessibilité serait un moyen de combler un besoin spécifique, uniquement pour les personnes handicapées. Il est temps d'enlever cette idée que les personnes handicapées ont des besoins spécifiques peu communs. De plus, cela vient nourrir un autre mythe qu'elles ne seraient pas comme tout le monde. Les besoins sont les mêmes. Ce sont les moyens mis en place pour les satisfaire qui sont différents. L'accessibilité a toujours été présente, mais n'a jamais été appelée comme telle. Le mode d'emploi d'un nouveau produit est une forme d'accessibilité. Il permet de combler le besoin de compréhension du fonctionnement du produit. Il faut rajouter une version audio pour combler ce même besoin chez les personnes malvoyantes. Dans le monde de l'accessibilité, un phénomène est mis en avant pour démontrer qu'elle est pour tous et toutes, le curb effect. Prenons l'exemple du bateau d'un trottoir. Il permet à une personne en fauteuil roulant de monter sur un trottoir, mais aussi à une personne avec une poussette, un livreur avec son diable. C'est de l'optimisation. Le cas du jeu vidéo, je suis persuadé qu'elle offre des points d'entrée à des personnes qui se considèrent pas joueurs, faute d'inaccessibilité. Par contre, je tiens à émettre un point de vigilance. Bien que l'accessibilité puisse profiter à tous et toutes, il permet avant tout de remettre à un niveau égal des personnes handicapées en tant que consommateurs. Pour finir, je dirais que travailler l'accessibilité aujourd'hui, c'est penser aux soins de demain. Le handicap est imprévisible et arrivera tôt ou tard. La population des joueurs de jeux vidéo vieillit et ils veulent continuer à jouer ou rejouer à des titres de leur jeunesse. Donc non, l'accessibilité ce n'est pas que pour les personnes handicapées. C'est pour donner une chance à tous de profiter de cette forme d'expérience. Peu importe ton âge, ton genre, tes capacités, l'objectif est le même, obtenir du fun. Pour le prochain épisode, attaquons-nous au nerf de la guerre, l'argent. L'accessibilité est perçue comme un domaine supplémentaire qui demande un budget supplémentaire qui est rarement possible. Mais qu'en est-il vraiment? L'accessibilité est-elle vraiment chère? Au-dessus de toute capacité financière? Vous venez d'écouter Mispatch, une émission créée par un concerné pour déconcerner.
L'accessibilité.
Ça consiste à rendre tous les contenus accessibles à tous.
Pendant des décennies, l'industrie a sciemment ignoré tout ce qui n'était pas mâle, blanc, hétérosexuel, valide.
Tous les acteurs d'un projet numérique doivent faire des choses, en particulier les développeurs.
Manette directement dans un autre sens, avec un stick sur la paume pour jouer à une main, clavier découpé différemment, souris ergonomique.
C'est quasiment impossible.
Ça coûte de l'argent, vous comprenez? Et de toute façon, qui s'en fout des handicapés?
Parce que on a chacun des problèmes différents.
Mismatch.
Si on peut le faire, faisons-le.
La chronique qui vous parle accessibilité dans les jeux vidéo.
C'est compliqué, mais c'est pas impossible.